hein, suivre cette chronique Conseil du jour, vous tiennent à l'œil, hein, parce qu'ils attendent encore notre rendez-vous. Merci et à la prochaine.
Au revoir, Gilles.
Au Capitaine, à Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service.
La loi sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes présente plusieurs faiblesses, notamment celle de l'inexistence, de la prise en charge des victimes de viol. Le problème devient plus délicat quand la victime est enceinte et que le violeur se trouve être celui qui l'aide à subvenir à ses besoins. Il faut donc, pensent certains analystes et même certains juristes, que la loi tranche sur le problème de prise en charge matérielle et psychologique. Nous en parlons donc, on fait le point avec notre confrère Donat Chimbo, qui est en ligne. Donna, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur celui qui est concerné par cette prise en charge, ce que préconisent les analystes?
Eh bien, JR, la prise en charge préconisée par les analystes concerne et la victime et les violeurs, puisque ce dernier peut avoir des troubles psychopathologiques qui expliquent son comportement. Il faut donc le guérir par une psychothérapie. Ça, c'est d'une part. De l'autre, plusieurs cas de figure montrent la nécessité de cette prise en charge, surtout quand la victime est une fille. Le président du tribunal de grande instance des Kamina, et nous sommes là dans le centre du Katanga, nous a affirmé que c'est vraiment un véritable casse-tête pour les juge quand il doit trancher des cas d'une fille prise en charge habituellement par les violeurs et non par sa famille. Freddy Boyeye.
Prenons le cas d'une mineure qui se retrouve rendue grosse et que c'est ce violeur-là qui l'a prise en charge en tout et pour. La famille se plaint. Nous devons trancher. Et au cours même de l'instruction, la victime vient. Des fois, elle se constitue partie civile au travers d'un conseil pour dire que je n'ai personne qui pourra me venir en aide quand vous préparez la maternité. Si vous condamnez ce monsieur ici, que deviendrai-je? C'est ce monsieur qui me loge, c'est ce monsieur qui me nourrit, c'est ce monsieur qui me vêtit, c'est ce monsieur qui pourra prendre soin de ma grossesse. Et pas ma femme, parce que j'ai été abandonné par ma famille.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les risques que court une fille mineure, Donna, une fille mineure enceinte, et dont l'amant est condamné à passer plusieurs années en prison?
Eh bien, pour le professeur Jean-Paul Kongolo Mukendi de la faculté de psychologie à l'université de Lubumbashi, la fille victime séparée de son amant est non seulement privée d'un bienfaiteur sur le plan matériel, mais pire encore, sur le plan psychologique, elle risque de subir un traumatisme psychique qui met en péril la vie du fœtus qu'elle porte si elle est grosse au moment du procès.
Le choc ressenti par la mère aura des répercussions sur l'enfant qui est en développement, qui est encore sous forme d'un fœtus, parce que pendant la grossesse, toutes les émotions agréables et désagréables vécues par la mère influencent le développement du futur enfant. Et ce choc affectif pourrait être à la base des perturbations affectives dans le développement de l'enfant. L'enfant peut, à la sortie, il peut être un enfant isolé, un enfant mélancolique, un enfant qui a très peu de contact avec l'entourage social, un enfant qui manque du cœur, qui est insensible. Et tout cela remonte au moment où l'enfant était encore dans le ventre, dans le sein maternel.
Donna Chimbo-Rouge, est-ce que les chercheurs disent concrètement comment peut se faire cette prise en charge des victimes des violences sexuelles?
Oui, JR. Pour ceux qui vivent en ville et qui ont des moyens, ils sont invités à contacter des psychologues spécialisés en cette matière. Au village, c'est l'arbre à palabre qui permet à tout le monde de se défouler, de se décharger psychologiquement et donc d'éviter des conflits psychiques. Mais il faut tout de suite préciser que la loi de lutte contre les violences sexuelles en RDC interdit ce genre d'arrangement à l'amiable.
Et comment réagissent les vulgarisateurs de la loi sur la lutte contre les violences faites aux femmes face à ce que les observateurs présentent comme des insuffisances aujourd'hui?
Eh bien, dans le camp des activistes et autres vulgarisateurs de la loi de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, on est d'avis qu'il y a matière à réflexion. Mais pour Ashraf Sebaï, officier de la section des droits de l'homme de la Monique Lubumbashi, la prise en charge des victimes de violences sexuelles pose problème en RDC par la faute de ceux qui sont appelés à appliquer la loi, notamment en matière d'indemnisation. On se contente de condamner et sans aller plus loin. On peut écouter Ashraf Sebaï.
C'est effectivement un des problèmes majeurs constatés dans l'application de cette loi, c'est que la loi garantit une réparation pour toutes les victimes de violences sexuelles. Mais dans certains cas, l'auteur du viol ne dispose d'aucun bien. Il est insolvable et ne peut en aucun cas dédommager la victime. Et là, la question se pose de la responsabilité de l'État congolais. La loi prévoit une réparation pour toutes les victimes de violences sexuelles, et notamment la condamnation de l'auteur du viol, non seulement à une peine de servitude pénale et à une peine d'amende, mais également au versement de dommages et intérêts. Je pense que ce problème ne se poserait pas si toutes les décisions, notamment tous les jugements de condamnation, étaient correctement exécutés par l'Office du ministère public. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des victimes de violences sexuelles ne jouissent pas totalement de leurs droits. Certes, elles bénéficient de condamnations, de jugements qui leur est favorable, mais bien souvent, ça n'est pas assorti d'exécution. De sorte que les victimes se retrouvent dans des situations de précarité encore plus importantes que celles dans lesquelles elles se trouvaient avant d'entamer le processus judiciaire.
Voilà, nous avons déjà notre invité en ligne. Il s'appelle Patrick Lissassi. Il s'occupe de la prise en charge psychosociale des victimes des violences sexuelles à la clinique Save Congo. Avec vous, Donatien Bauge, on s'arrête là et on se retrouve plus tard.
Merci, JR, au revoir.
À Lubumbashi, sur 95.8 FM.
Nous avons en ligne Dr Patrick Lissassi, qui est en charge, la prise en charge psychologique des victimes de violences sexuelles à la clinique Safe Congo. Dr Patrick, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons suivi le point que venait de nous faire Donatien Bauge en rapport avec la prise en charge matérielle et psychologique des victimes de violences sexuelles dans cette partie du pays. D'abord, nous retenons une chose, la loi garantit la réparation de l'acte qu'on a commis. En quoi aujourd'hui cette question doit encore diviser plus d'une personne? Pourquoi cette question continue à diviser plus d'une personne quant à savoir qui doit prendre en charge et qui ne doit pas prendre en charge des cas de victimes de violences sexuelles?
Oui, effectivement, cette situation pose beaucoup de problèmes, comme à chaque navigateur, notamment sur l'indemnisation des victimes. Nous avons des mineurs qui viennent pour cause des victimes, enfin des violences sexuelles, et après réparation juridique, l'auteur du viol est mis en prison. Malheureusement, la réparation par rapport au préjudice sur le plan social, mais ce ne suit pas. Conséquence, nous avons des mineurs qui vous disent « Je n'ai personne pour me prendre en charge. » À cause des problèmes sérieux. Entre-temps, la famille, nous avons beaucoup de victimes de violences sexuelles issues des familles, entre guillemets, pauvres. Et cette fille se retrouve abandonnée, rejetée, et qui se retrouve pratiquement des fois sur la rue. Conséquence, nous avons le problème des traumatismes psychiques dont on a parlé par le professeur Congolo, surtout une dépression. Je parle par exemple d'un cas spécifique où nous avons eu une victime qui intime, parce que c'est pas elle qui a porté plainte, les parents sont venus, elle était contre dès le début, et finalement elle a même menacé de se suicider. Finalement, le juge était obligé de relaxer l'auteur du viol. Parce qu'elle a menacé de se suicider. Nous avons fait un certificat médical vraiment où il y avait idéation suicidaire et c'était dangereux pour elle-même. Et finalement, le juge a dû prendre une décision. Donc nous disons que la loi vraiment n'est pas adaptée aux réalités de notre pays. Cette loi qui ne favorise pas l'arrangement à l'amiable pour des cas où nous avons déjà un responsable, on dit qu'elle est mineure, il n'y a pas eu consentement, mais des fois, excusez-moi le terme, il y a consentement des gens qui sortaient ensemble et finalement la famille qui découvre et qui porte plainte, alors que la fille aime le garçon et le garçon veut prendre en charge la fille, la famille refuse, l'homme va en prison, la femme ou la victime commence à développer une dépression et cela se répercute sur l'enfant et ne nous étonnons pas que cela puisse poser des problèmes mentaux chez la mère, poser des problèmes chez l'enfant, et cet enfant, que va-t-il devenir sans père pour le prendre en charge? La mère n'a pas de moyens. Nous allons favoriser
l'enfant
de la rue, sans parler des avortements, parce que la femme ou la fille qui finalement
Docteur Patrick, comment jugez-vous l'attitude de certains analystes, comme on venait de le suivre dans ce point que venait de nous faire notre confrère Donat Chimboge, des analystes de la question qui interdisent la prise en charge catégoriquement alimentaire de la victime par le bourreau?
En tout cas, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre d'analyse. Je suis convaincu, parce que nous vivons ça ici tous les jours, que la personne qui est l'auteur du viol doit prendre en charge la victime, doit prendre en charge la victime, puisque après tout, cet enfant naîtrait de cette relation à un père. Et en tant que père, même s'il va en prison, bon, là, c'est déjà encore un autre problème, il doit prendre en charge cette victime. Mais là, maintenant, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes où nous demandons que le législateur essaie un peu de revoir la loi par rapport à ce genre de cas.
Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la procédure à suivre pour réellement rentrer dans ce droit quand on est victime, ou peut-être qu'on se retrouve dans une situation de violence sexuelle, et surtout quand on est victime?
Non, mais je pense qu'il est prévu dans la loi que l'auteur du viol doit payer une amende, c'est prévu. Mais concrètement, nous ne savons pas comment les choses se font. On ne suit pas. Bon, cet argent qui est payé devait être remis à la famille si la victime est encore mineure, et c'est cet argent qui devrait aider cette victime à pouvoir se tenir à ses besoins, à ceux de l'enfant.
Donc, nous retenons une chose, docteur Patrick, vous êtes d'avis que le bourreau puisse normalement, pour arriver à réparer les préjudices causés, à pouvoir prendre en charge totalement de victimes, hein, que ce soit sur le plan alimentaire ou juridique.
Ce n'est pas le cas, donc, que l'État a créé un fonds d'indemnisation des victimes.
Donc, dans les cas contraires, c'est l'État qui va prendre en charge, selon les textes, selon la législation congolaise.
Voilà.
Merci, docteur Patrick Lissassi. Nous rappelons que vous vous occupez de la prise en charge psychosociale des victimes de violences sexuelles à la clinique Save Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci.